cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 23 mai 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
N'oublions pas que, en éthique chrétienne, comprenons bien ce que saint Thomas nous dit, la charité forme des vertus. C'est très important de montrer qu'en éthique chrétienne, donc les vertus cardinales, espérant la prudence, la justice, la force et la tempérance, toutes sont transformées par la charité et atteignent comme un sommet. La fameuse question d'héroïcité des vertus. C'est la charité qui permet à notre prudence humaine d'être transformée, on le verra ensuite, à notre force d'être transformée par la charité et de pouvoir atteindre un sommet. Elle atteint ce sommet qui est le point de vue du martyr. Enfin, la question, par exemple, d'un Socrate, puisque ça fait partie de la morale, ça, grec, Socrate, un livre que le père Demand a écrit entre un Socrate et Jésus, en montrant toute la différence entre Socrate et la morale chrétienne, Jésus. Un Socrate en terre chrétienne, est-ce que c'est juste de prendre la ciguë pour respecter les lois? C'est magnifique, un Socrate. Mais est-ce que c'est un modèle encore pour le chrétien? Non. La charité. La loi n'est pas un absolu. Alors, est-ce que la vie humaine doit se sacrifier pour la loi? Le chrétien doit se sacrifier comme témoin du Christ. Et là, il accepte, s'il le faut, d'être martyr, d'être victime d'amour, pour respecter pleinement les exigences de l'amour, d'être témoin du Christ, l'ami du Christ. On ne peut pas renier notre amitié vis-à-vis du Christ. Pierre a manqué de force lorsque on était en train d'arrêter Jésus et devant le ricanement de la servante, il a perdu pied. C'est toujours la fidélité au Christ qui permet et qui doit être respectée jusqu'au bout dans le martyr. On veut être fidèle à l'amitié du Christ. Donc c'est la charité qui vient transformer la vertu de force pour lui permettre d'agir héroïquement, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout. Saint Thomas montre que la vertu de force vient transformer la passion de l'irascible. C'est à l'égard de l'irascible que la force agit. Et elle transforme l'irascible, la passion de l'irascible, pour tempérer l'irascible. Donc par rapport aux colères, la force nous rend patients. Parce que l'irascible comme passion, quand on la laisse aller, elle agit en colère. La colère est une faiblesse. Normalement, l'amour du prochain transforme la colère en un silence. Parce que le silence corrige lorsqu'on est en face d'une injustice, ce qui nous semble une injustice, que ce qui nous apparaît une injustice. Alors, la charité du prochain est suffisamment forte pour nous permettre de demeurer dans le silence. Et lorsque on doit agir pour rectifier, on agit avec force, c'est-à-dire en réfrénant la passion de l'irascible qui risquerait de rendre le pareil de l'injustice qu'on subit. S'il n'y avait pas la vertu de force, on rendrait la pareille. Tu me dis ça, je te dis ça. Et ça n'est pas la vertu de force. La vertu de force permet de transformer le manque de justice dans les rapports mutuels, de transformer ces manques de justice en un don d'amour plus grand. Donc, d'être miséricordieux pour ne pas vouloir nous-mêmes rétablir la justice. Si on est responsable comme ayant l'autorité, c'est différent. Alors, quelquefois, on est obligé d'agir. Mais le cas extrême, pour comprendre ce que la force chrétienne transformée par la charité doit nous permettre d'être témoins, offrir notre vie, être des agneaux qu'on mène à la boucherie, qu'on accepte d'offrir sa vie pour témoigner en faveur du Christ, témoigner de notre fidélité dans le Christ et qu'on ne reconnaît que lui qui doit être adoré, vénéré. Donc, c'est l'amour qui se sert de la vertu de force pour lui permettre d'aller jusqu'au bout. Saint Thomas souligne toujours que la force est premièrement dans le fait de pâtir la patience, de pâtir devant l'injustice, devant les agressions d'un autre. Ce n'est pas l'agrédi, répondre avec violence, qui exprime la force. Non, c'est d'accepter de pâtir patiemment, se taire pour qu'on puisse rétablir la justice d'une façon vertueuse, aimante. C'est pour ça que très souvent, on répond par un amour plus grand devant la justice. C'est une réponse plus aimante, plus vertueuse, plus sainte. Et la réponse extrême, c'est le martyr. La patience, on pâtit. On accepte d'être victime d'amour, d'être l'agneau. Et ça, c'est très, très typiquement chrétien et très typiquement la vertu de force au point de vue chrétien qui fait de nous des témoins du Christ. On aime mieux disparaître, ne pas attaquer et disparaître pour qu'on proclame davantage l'absolu de l'amour, le primat de l'amour du Christ. Il y a sûrement là quelque chose de très grand. Et tout chrétien doit être prêt au martyr. Il doit être dans cette attitude-là. La vie chrétienne réclame l'héroïcité. Puisque le chrétien, surtout quand il vit dans un climat de païens ou de ceux qui ont quitté la vie chrétienne volontairement, il y a toujours un désir de vengeance ou un point de vue de jalousie. La jalousie conduit à vouloir tuer, faire disparaître l'autre. Et c'est par rapport au règne du Christ, par rapport à la volonté du Christ, donc au royaume de Dieu. Le Christ dirige le royaume de Dieu. Et nous sommes tous, et nous faisons tous partie du royaume de Dieu. Et il y a des cas où le royaume de Dieu exige de disparaître. Parce qu'on est en face de forces qui ne valent pas la primauté du Christ. Et donc, devant des régimes, devant des personnalités qui sont en opposition violente à l'égard de Jésus, on sait que nous devons, nous, nous préparer au martyr, parce qu'on se prépare au martyr. On se prépare au martyr en comprenant l'absolu de l'amour. Ce n'est que par l'amour que nous pouvons avoir la force de disparaître, de mourir. Pour respecter l'absolu du mystère du Christ. Et il y a là quelque chose de tout à fait propre à la vie chrétienne. Il y a des imitations. Il y a des gens qui sont martyrs de leur assemblée. Ce n'est plus à cause du Christ. propre aux martyrs, d'avoir, de respecter cet amour du Christ qui n'est plus compris, qui est rejeté. Nous voyons aussi la transformation très nette, très poussée de la vertu de tempérance. Vous voyez, les vertus morales, par la charité, touchent l'héroïcité. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la différence de la force stoïcienne et de la force chrétienne. La force stoïcienne, c'est un exercice de plus en plus parfait, de plus en plus fort, de la vertu de force. L'héroïcité dans la vertu de force, ce n'est pas le martyr. Le martyr est toujours dans l'amour. Ça exige une héroïcité de force, mais c'est dépassé par l'amour. Et c'est comme ça qu'on est témoin du Christ, par l'amour qu'on a pour lui. C'est ce qui a manqué à Pierre la veille de la Passion. Il lui a manqué cette héroïcité dans l'amour du Christ. Il a regardé uniquement son intérêt, sauf qu'il peut, devant le danger. Et c'est ce qui distingue le martyr de celui qui défend son pays et qui, en défendant son pays, meurt à la guerre. Ce ne sont pas des martyrs. Il y a une héroïcité de vertu de force. C'est sûr. Il faut tenir en face du choc. Il faut tenir en face d'un danger de mort imminent. C'est vis-à-vis du danger de mort imminent que la vertu de force doit s'accomplir dans toute sa force. Eh bien, le militaire qui défend son pays, il lui faut les vertus de force. Mais le martyr, ce n'est pas la vertu de force qui le commande, c'est la présence du Christ. C'est offrir sa vie pour Jésus. Donc c'est la finalité, c'est l'amour du Christ. Dans l'héroïcité stoïcienne, la finalité, c'est sa noblesse humaine, ne pas être poltron, ne pas fuir devant le danger, tenir bon et manifester la grandeur et la force de l'homme. C'est l'exaltation de l'homme. Et dans Socrate, il y a plus. C'est l'amour du pays. C'est l'amour de l'ordre légitime de la loi qui lui fait offrir le sacrifice de sa vie. Il y a une très grande noblesse, mais ça ne va pas plus loin. Tandis que la réussite du martyr, c'est le Christ, c'est l'amour du Christ. Tout de suite. Lorsque nous regardons la tempérance, c'est le concupiscible qui est alors éduqué. Par la vertu de force, c'est l'irascible qui est éduqué, c'est-à-dire qui est mis au service de la raison, au service de la prudence. Dans le concupide, dans la vertu de tempérance, c'est la vertu de concupiscence qui est mise au service c'est notre passion du concupiscible qui est domptée, qui est purifiée et qui nous permet de nous offrir aussi comme victime d'amour pour proclamer la grandeur du Christ. Alors, il faut comprendre, au point de vue chrétien, l'héroïcité du martyr non sanglant. Tandis que, humainement, c'est le martyr sanglant. Il n'y a pas humainement un martyr non sanglant. Mais il existe au point de vue chrétien. C'est pas verser son sang qui est nécessairement ce qu'il y a de plus héroïque. Marie, à la croix, n'a pas versé une goutte de sang. Elle est la reine des martyrs. Et c'est important de voir ça. Alors cette héroïcité se traduira toujours dans le fait de passer des vertus aux béatitudes évangéliques. Il y a un passage qui se fait même au niveau de la vertu, de force. Le passer de la vertu morale par la charité à vivre bienheureux si on a faim et soif de la justice. C'est la vertu de force, transformée par l'amour et un martyr qui peut exister non sanglant. Cet amour très profond de la justice. Parce que on se met en colère quand on est en présence d'une injustice. C'est toujours être en présence d'une injustice qui nous met en colère. Et quand la vertu de force n'est pas là, on répond tout de suite, du tac au tac. C'est très spontané les vertus de force, l'irascible. Et par la vertu, l'irascible se modère, devient intelligent et on devient patient. C'est moins beau extérieurement que la colère. Il y a des colères qui sont très belles. C'est vrai. C'est parce qu'il y a un déploiement de force assez étonnant. Dans les collèges pensionnaires et tout cela, on voit très bien la manière dont on peut mettre en colère ces pions. J'ai toujours dans la mémoire une complicité de pensionnaires dans un collège des pères jésuites où la tenue est de rigueur. mettre en colère le préfet des études. Alors il y avait une complicité de tous les étudiants, de tous les pensionnaires, parce qu'ils nous agaçaient prodigieusement. Alors une complicité, et on est arrivé à le mettre en colère. Du reste, c'était assez facile, parce qu'on l'appelait colérique. Choléra. Et alors, les complicités, c'est pour des jeunes pensionnaires, c'est très bien, ça les détend. Et ça oblige de faire que le préfet des études soit changé. C'est la seule voie d'accès à faire ça. Et si on fait ça, c'est automatique. On sait bien. Et étant religieux, je l'ai revu. J'avais connu comme pensionnaire et j'avais assisté à cette scène homérique. C'est beau, c'est très beau, du reste. C'est le spectacle d'un orage violent. L'orage violent fait comprendre ce que c'est que la colère. C'est la colère des cieux. L'orage violent. Et alors, quand on est nombreux et qu'on se tient, on se tient assez facilement quand on est d'accord du côté de l'irascible. L'irascible cherche facilement les complicités. C'est plus ou moins juste, c'est autre chose. Hein. C'est pas très vertueux. Mais c'est beau. Une certaine beauté. Quand le jeune préfet arrivait en se tenant bien, il était petit. Alors, les petits se mettent facilement en colère. Hein. Et des petits. Il avait le bec haut. Et tout de suite en haut, ils ont sifflé. Alors il a couru à l'eau. Dès qu'il courait, le jeune sifflait. Il était au milieu de gens qui le sifflaient. Et il ne savait plus quoi. Alors il a hurlé, c'est ce qu'on voulait, parce qu'en hurlant, il perdait tous ses moyens. Il était vraiment en colère. Alors évidemment, on l'a su. Et ça s'est mal fini pour lui. Parce que comme on était tous de mèche, il aurait fallu nous punir tous, nous renvoyer tous, parce qu'on aurait été très contents. Les pensionnaires ne demandent que ça, parce qu'ils retournent chez eux comme ça. Sûrement que la passion de l'irascible est une passion très noble. Saint Thomas note que la recherche intellectuelle de la vérité augmente l'irascible. La recherche, si notre intelligence se développe, notre pouvoir d'irascible augmente. C'est une passion noble, l'irascible. Et la vertu de force qui domine l'irascible est sûrement quelque chose de très grand. Et c'est pour ça que le martyr est si grand. Parce qu'il faut un certain irascible. Celui qui n'a aucun irascible, qui est mou, la vertu de force ne peut rien faire. Elle n'a pas de matière à prendre et à en oublier pour aller jusqu'au bout. Et dans le martyr, elle en oublie la matière de l'irascible d'une façon remarquable. Le concupiscible n'est pas une passion noble, concupiscible nous fait rampant. C'est très curieux. Le concupiscible fait qu'on perd toute dignité pour pouvoir jouir. On perd toute dignité. Jamais l'irascible fera ça. Donc c'est très important de comprendre ce que sont ces vertus, ces passions, je veux dire, et les vertus de force et les vertus de tempérance. On doit les acquérir, ça. On doit acquérir la vertu de force. On doit acquérir la vertu de tempérance. Le mieux, c'est de l'acquérir quand on est jeune. Et si on n'avait personne pour les acquérir, il faut les acquérir au noviciat. C'est beaucoup plus difficile. La vertu de tempérance va maîtriser la concupiscence. La concupiscence, c'est le boire et le manger. Si on se précipite sur ce qu'on aime bien, sur les gâteaux, on se précipite sur la qualité du vin, le bon vin. Mais qu'on ait ces passions très développées, c'est pas un mal. Ne pas avoir de passion, il n'y a rien de plus irritant. Et quelqu'un, on peut marcher sur ses pieds. C'est très irritant pour le colérique. C'est vrai, ça. C'est pas la vertu, hein. La vertu présuppose que les passions d'irascibles et de concupiscibles sont quand même assez développées, suffisamment développées pour que la vertu puisse prendre corps là-dedans et transforme, sans les supprimer. La vertu ne supprime pas la passion. Donc il ne faut jamais vouloir ne pas avoir de passion. Les passions, c'est pas mauvais, la passion. Ça, c'est l'aristotélisme. Aristote reconnaît que les passions sont mauvaises. Alors que Sénèque considère que la passion est mauvaise. La passion n'est pas mauvaise. Heureusement. La vertu vient dominer, éduquer, transformer du dedans le concupiscible, comme l'irascible. Et elle met dans le concupiscible, elle l'élève, elle l'ennoblit, pour que on ne mange jamais trop, on ne boit jamais trop, on garde toujours la mesure. La mesure qui relève de la tempérance et qui relève de la prudence. C'est la prudence qui peut mesurer pour chacun d'entre nous le point de vue du boire et du manger. Et c'est la vertu de tempérance qui permet ça. C'est différent pour chacun d'entre nous. La loi que j'ai connue encore du carême, quand on devait jeûner, où on servait à tout le monde la même portion. C'est tout à fait faux. Parce que cette portion, pour quelqu'un qui n'a pas grand estomac, c'était ce qu'il prenait toujours. Et pour celui qui a un grand estomac, c'était terrible. Mais le point de vue de la tempérance est différent pour chaque individu. Et c'est surtout par rapport à la tempérance que le point de vue de la vertu est propre à chaque individu. Parce que la concupiscence est différente. Et même quelqu'un qui n'a pas été du tout éduqué quand il était jeune, le concupiscible a pu se développer énormément. Alors, la différence entre le gourmet et le gourmand, faut bien distinguer. Le gourmand, c'est la quantité. Le gourmet, c'est la qualité. Au point de vue de la vertu fonctionne différemment pour le gourmand que pour le gourmet. Mais elle joue pour les deux. Elle joue pour les deux, parce que le gourmet n'a pas besoin de beaucoup de quantité, mais la qualité. Là aussi, on voit des tas d'histoires aux noviciats. Si on est attentif, il faut éduquer sa tempérance. Ça s'éduque et ça s'acquiert. Et la vertu de tempérance se transforme en vertu de chasteté à l'égard de tout, le bien sexuel. Donc la vertu de tempérance est beaucoup plus complexe que la vertu de force. La vertu de force, c'est relativement simple. La vertu de tempérance est très complexe pour chaque individu. Pour chaque individu, Dieu seul le sait. Pour chaque individu, corriger le concupiscible est différent. Et la vertu de tempérance vient permettre que tout soit réglé par la prudence et puisse aller jusqu'au bout. Alors, on a encore un point de vue chrétien, le point de vue de la pénitence. C'est quelque chose qui vient s'ajouter à la tempérance. La tempérance, c'est pour tous les chrétiens. Et pour les chrétiens qui veulent vivre des conseils évangéliques, alors il y aura le point de vue de la pénitence. La vertu de chasteté est vraie pour tous les chrétiens. Et elle sera absolue pour les religieux. On essaiera d'entrer un peu dans la vertu de tempérance. Parce que c'est beau, c'est grand, c'est moins reluisant que la vertu de force. Ça, c'est moins reluisant. C'est beaucoup plus caché. La vertu de tempérance, au fond, est très cachée. Et elle nous apprend à être très cachés, à ne pas tout voile dehors. La tempérance est toujours quelque chose qui nous apprend à vivre une vie cachée. Elle nous intériorise. La vertu de chasteté nous intériorise. Beaucoup. Bon. parce que la concupiscence, elle nous met dans des biens, elle nous attire vers les biens sensibles. Et facilement, par les biens sensibles qui sont extérieurs à nous, on perd toute tenue. C'est très, très net, ça. Mais la politesse, la tenue, n'est pas la vertu. Mais ça aide à une retenue